Je suis Bertrand Chaudet, kinésithérapeute de profession, diacre depuis 1994, et donc sensibilisé à la question des nouvelles croyances et des dérives sectaires, de par mon histoire et de par mes amitiés. Mes deux meilleurs amis sont rentrés l'un dans la méditation transcendantale de Guru Maharishi Mahesh Yogi, avec toute la technique des siddhis, de l'acquisition de pouvoirs paranormaux. Le père Verlinde en a très largement parlé, puisqu'il était secrétaire de ce Guru Maharishi Mahesh Yogi. Donc un de mes meilleurs amis est rentré là-dedans très tôt. Donc à l'âge de 18 ans, ça a été pour moi l'objet d'une interrogation permanente, ainsi qu'un autre de mes meilleurs amis qui est rentré dans l'anthroposophie de Steiner et qui fait partie du noyau dur de cette communauté de Steiner, c'est-à-dire la communauté des chrétiens dans laquelle il s'est marié. Donc d'un côté, quelque chose d'ordre oriental avec Guru Maharishi Mahesh Yogi et toutes les techniques qui nous viennent de l'Orient et qui aujourd'hui sont extrêmement prégnantes dans le monde des thérapies, et de l'autre côté une forme d'ésotérisme qui tente une synthèse ou en tout cas un syncrétisme entre l'Orient et l'Occident à travers donc tout un héritage gnostique, Rose-Croix, etc., à travers l'anthroposophie de Steiner. On reviendra sur ces termes-là si pour vous ce n'est pas familier, mais voilà. Je voudrais, je suis fidèle collaborateur du père Dominique Osney, avec lequel nous travaillons dans la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires 72. Et j'ai été aussi co-coordinateur national de la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires pendant 6 ans et demi. Notre ami Christian Piron, ici présent, a été aussi un assidu membre de cette pastorale sur les Pays de Loire, représentant donc la Vendée. Voilà. Et puis le père Didier Moreau nous avait rejoint très heureusement à certaines de nos rencontres. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment, ça tombe bien, le jour où nous célébrons la Sainte Athanase, ce saint du 4e siècle, évêque, qui a eu à lutter contre l'arianisme et contre les dérives sectaires de son temps. Et il a lutté véritablement avec beaucoup de ténacité, de pugnacité, d'intelligence, parce que le milieu ambiant était véritablement totalement défavorable et l'arianisme avait pratiquement gagné, je pense, une majorité, même des évêques de l'époque. Donc c'est sous sa haute protection et bénédiction que nous allons essayer de dire quelques mots sur l'anthropologie. Sur l'anthropologie, vous avez entendu, il y a eu une petite introduction à un psaume disant « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. » Très important. Hein. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. » Et c'est tiré de l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, de sacrifice et d'offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Et c'est référent tout à fait, et c'est très intéressant, c'est référent à un psaume où il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as ouvert l'oreille. Écoutez cette parole, et d'une certaine manière, c'est ce que nous allons essayer de faire, d'écouter profondément cette parole, d'ouïr cette parole. Ouïr, qui a donné le mot en français « obéir », donc de rentrer dans une intelligence où nous ouvrons notre oreille pour pénétrer le monde qui nous est offert par Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as ouvert l'oreille. Et vous savez que sur un tympan, le tympan à la cathédrale de Chartres, vous avez Marie qui est allongée et qui tend l'oreille, parce qu'une tradition dit que si elle a reçu l'Esprit-Saint, et s'il a reçu la visite de Gabriel, c'est par son oreille qu'elle a pu engendrer et être la mère de notre Sauveur. D'où l'importance de cette oreille, et nous allons suivre ce chemin de l'audition. Écoutez cette parole, écoutez cette parole. Et dans cette écoute de cette parole, vous savez que la Bible commence par « dans un commencement » ou « in principio », dans le principe, ou « dans un commencement ». Et en hébreu, ça se dit « bereshit », « bereshit bara Elohim », « dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais vous savez que les Juifs sont toujours très attentifs à la lettre, et la première lettre de l'alphabet de la Bible, celle qui nous ouvre à la Bible, c'est la lettre Bet. Et vous savez, la lettre Bet, plancher d'un toit et d'un mur. En fait, cette lettre Bet, c'est la lettre de la maison. Donc, dès que nous rentrons dans la Bible, nous rentrons dans une maison. Dans une maison où nous apprenons un langage particulier, qui est le langage de l'amour de Dieu, et qui a un objectif. Et cet objectif final, je commence par ce point de départ, c'est tellement important. Cet objectif, c'est d'être... Quel est l'objectif? C'est une question que je pose quand je rencontre des jeunes. Quel est l'objectif de la vie, en fait, en Dieu? Quel est cet objectif? Vers quoi nous tendons? Qu'est-ce que nous espérons? Quel est cet objectif? Alors les rabbins juifs, vous savez, disent il suffit de lire la Bible pour connaître l'objectif. Mais si vous n'avez pas le temps de lire toute la Bible, il suffit de lire les 150 psaumes qui sont d'une certaine manière le résumé de la Bible. Et si vous n'avez pas le temps de lire les 150 psaumes, vous pouvez lire simplement le premier psaume, qui est le résumé des 150 psaumes, qui est le résumé de la Bible. Et si vous n'avez pas le temps de lire le premier psaume, eh bien vous pouvez lire simplement le premier mot du premier psaume, qui est une véritable orientation de vie. Et ce mot, c'est « Ashrei » en hébreu. Et ça se traduit par « heureux ». Mais « Ashrei » en hébreu nous invite à une dynamique en marche, dirait Chouraki. En tout cas, nous sommes dans une volonté de vie et de participer à la vie, et cela nous rend heureux. Et nous rend heureux, bien entendu, pour l'éternité. Alors voilà, nous allons essayer de rentrer dans cette maison, Bereshit, dans le principe, dans ce principe, et d'essayer de regarder l'anthropologie à la lumière de la tradition biblique, et à la lueur aussi de quelqu'un qui m'est très cher, qui est Marcel Jousse. Marcel Jousse, qui est un jésuite sartois, un fils de paysan. 1886, sa date de naissance. Sa mère avait été que 3 hivers à l'école, et sa grand-mère était totalement illettrée, et il a tout appris sur les genoux de sa maman et sur les genoux de sa grand-mère. Et nous allons essayer de rentrer dans cette pénétration de cette parole à travers la lueur de quelqu'un de terrain, d'un paysan, qui a observé que tout l'enseignement passait par l'oralité. L'oralité, ça a été le premier enseignement du Christ. Et sa première catéchèse au Christ, ça a été précisément ce sermon sur la montagne qui commence par « heureux ». Et nous allons y revenir parce que vraiment c'est fondamental et c'est le socle sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer. Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et avez-vous repéré que cette terre, cet univers, n'avait pas de sens? Le sens de l'univers, de la terre, du monde, est sans sens. Il n'y a pas de sens. Le sens de l'univers, il est relatif à la conscience que nous avons de notre propre corps. Ainsi, le monde n'a pas d'avant ni d'arrière, de droite ou de gauche, et de bas et de haut. Si sur une planisphère ou sur une carte de géographie, nous donnons un sens à cet univers, il est relatif à la conscience que nous avons de notre propre corps. Et ça, c'est très important de considérer ça dans le principe. Parce que, si vous voulez, c'est progressivement en prenant conscience de son propre corps que l'on va aussi repérer ce qui se passe dans le monde et dans l'univers. Alors, c'est ainsi que nous allons essayer de voir comment nous portons en nous-mêmes et dans notre chair la mémoire de cet univers, la mémoire d'une conscience de la cosmogénèse, une conscience aussi de notre propre corps, de notre ontologie personnelle, une conscience aussi de notre espèce. Et si vous voulez, nous sommes un microcosme qui est en lien permanent avec le macrocosme. Et nous allons essayer de voir comment structurellement les choses s'organisent au niveau de notre corps. Alors, je ne rentrerai pas, bien entendu, dans ces questions de créationnisme ou d'intelligent design, où, vous voyez, hein, qui peuvent porter à des discussions, si vous voulez. Nous allons essayer de rentrer dans une perspective anthropologique en disant que notre corps est mémoire. Mémoire de notre espèce, mémoire même de ce qui s'est passé dans le cosmos, mémoire de tout ce qui se passe autour de nous. Notre corps est mémoire. Parmi les plus frustres de tous les vertébrés, il y a le serpent. Le serpent est une colonne vertébrale.
Ça a pris beaucoup de place dans la malle.
Alors je vous ai amené le premier serpent, qui est en fait notre colonne vertébrale. Alors attendez, hein. Le disant, je ne suis pas dans une perspective, si vous voulez, évolutionniste. Hein. Je dis qu'à l'intérieur de notre corps, nous avons la mémoire du serpent, qui est, vous voyez, une colonne vertébrale. D'ailleurs, les anciens pensaient que la moelle épinière, qui est au centre du serpent, de la colonne vertébrale, la moelle épinière, générait des serpents. Hein. Il y a un petit texte là-dessus qui est tout à fait amusant. Toujours est-il que vous voyez, voilà, c'est le vertébré le plus frustre. Et ce vertébré le plus frustre n'a de muscles que postérieurs. Il n'a pas de muscles antérieurs. Seuls ceux qui sont capables de se redresser ont des muscles antérieurs. Donc vous voyez, l'élément le plus frustre au niveau de notre corps, c'est cette colonne vertébrale avec la musculature postérieure. Et au fur et à mesure des espèces qui sont en capacité de se relever, eh bien vous avez une musculature antérieure. C'est très intéressant parce que dans le cas de rupture centrale au niveau de la colonne vertébrale, eh bien vous avez au niveau de la moelle épinière, au niveau central, hein, quand il y a un traumatisme crânien, eh bien vous pouvez vous retrouver en opisthotonos, c'est-à-dire que cette musculature postérieure va prendre le dessus sur toutes les autres musculatures. Et donc, on va retrouver une personne qui va être sur la tête, hein, je parle sous contrôle médical, et sur les talons. C'est très grave, mais pour dire que cette musculature postérieure est comme la mémoire très profonde que l'on a, et que quand on rompt la commode centrale, eh bien voilà, on se retrouve comme ça. Et on se retrouve aussi en rotation interne. Parce que, précisément, dans un deuxième temps, les vertébrés les plus frustes ont des muscles qui peuvent leur permettre d'avancer, donc des rotateurs internes, mais pas de rotateurs externes. Hein ? Donc, ils ne peuvent pas reculer. Donc, le serpent, et nous allons le voir tout à l'heure, ne peut pas reculer, il ne peut qu'avancer. De même que les amphibiens et les lézards et les crocodiles qui sont les plus frustes. Donc, ils peuvent avancer, ils ne peuvent pas reculer. Donc, vous voyez, On va retrouver ça au niveau du vieillissement et au niveau aussi de pathologies traumatiques. On va se retrouver avec des tensions au niveau de la musculature postérieure. Et quand on reçoit un coup, on ne va pas aller en se dilatant, mais on va aller en se rétractant. Hein, et en se recroquevillant sur soi. Et bien, on va retrouver ça aussi dans le processus de l'embryogenèse. Hein, on va retrouver ça avec le petit être va être un tube neural au départ, et puis il va y avoir ces amorces. Hein. On va retrouver ça. On a la mémoire de tout le cosmos dans notre corps. Voilà. Alors, vous voyez progressivement, ces vertébrés deviennent de plus en plus verticales. Et c'est très important parce que nous avons tout ça en nous-mêmes et dans notre mémoire. Ainsi, nous allons pouvoir appréhender le monde à travers l'expérience que nous faisons de notre propre corps. Et c'est une expérience qui est objectif, disons, c'est pas, vous voyez, on n'est pas dans la subjectivité, on est dans une perspective anthropologique. Là, il n'y a pas d'idéologie, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de considérer précisément que il n'y a pas, en ce qui concerne le cosmos, d'avant, d'arrière, de haut, de bas, de droite, de gauche. On est d'accord. Si nous donnons cette perspective à l'univers, c'est en fonction de l'expérience que nous faisons de notre propre corps. Or, le premier mouvement, c'est un mouvement donc antéro-postérieur. Antéro-postérieur, d'avant en arrière. Les premiers muscles sont donc postérieurs, puis ensuite au niveau antérieur. Et ça nous donne déjà une première perspective. L'avant, ce qui est devant moi, va être aussi associé à l'avenir. Et ce qui est derrière moi va être associé au passé. On est d'accord? Vous voyez? Donc là, on est déjà dans une conscience plus corporelle, plus spatiale, mais en même temps temporelle. Donc ça nous ouvre un autre espace. Et ensuite, vous avez la droite et la gauche. Et la droite et la gauche, c'est très intéressant de voir que dans les langages indo-européens, enfin dans les langages de l'hémisphère nord, la droite est toujours positive et la gauche est toujours entachée de la sinistra, quelqu'un qui est gauche, etc. Vous voyez, ça a une démarche dépréciative. Or, si vous voulez, c'est très intéressant de considérer que nous ne sommes pas là dans une perspective préalablement morale, mais dans une perspective d'expérience corporelle. Je m'explique. Quand vous êtes dans la nuit la plus noire du monde, qui n'a pas d'étoiles, vous êtes attiré par les premières lueurs du jour. Ces premières lueurs du jour nous viennent de l'Est. Et si nous suivons la trajectoire du soleil, eh bien, dans l'hémisphère nord, nous nous tournons vers la droite et nous laissons à gauche tout ce qui est à la sombrée, à la sinistra, le côté obscur. Donc, vous voyez, cette expérience de droite et de gauche est avant tout une expérience du réel, hein, de l'expérience corporelle, avant d'être une perspective d'ordre moral. Voilà. Donc vous voyez, vous avez donc le premier axe antéro-postérieur et le deuxième axe qui est latéral. Et puis vous en avez un troisième, et nous retrouvons ça dans l'anatomie. Hein. Quand on fait un travail en anatomie, on va avoir trois axes et six directions, si vous voulez. Donc, toute l'anatomie est basée sur précisément... Mais on va retrouver ça en cartographie, on va retrouver ça aussi avec les 3D. Hein. On est toujours dans cette même structure. Et puis, vous avez donc un autre axe, haut et bas. Hein. Haut et bas. Et donc, dans toutes les cultures, nous retrouvons cette même appréhension du corps et de l'espace. Le haut et le bas, donc le haut ça va être le ciel, le bas ça va être la terre, et puis le très haut ça va être les cieux, et le très bas, ça va être la géhenne, enfin tout ce qui se passe chez le voisin du sous-sol. Vous voyez ? Donc toute la structuration de l'espace va être en fonction de cette prise de conscience corporelle. Et c'est très intéressant de voir que Jousse, dans son anthropologie, va se ressaisir précisément de cela, parce qu'il l'observe, lui qui est fils de paysan et qui a vu ce qui se passait dans les veillées sartoises de la fin du XIXe siècle, eh bien, ce petit gars va avoir la chance d'avoir son vicaire à Beaumont-sur-Sarthe qui parlait l'hébreu et l'araméen. Et précisément, eh bien, il va être déjà modelé, et puis il a fait du grec aussi, par la méthode des racines. Et nous nous apercevons qu'à travers les racines grecques ou les racines hébraïques, et nous verrons quelques exemples tout à l'heure, il est question précisément toujours de notre corps et de notre expérience corporelle pour dire, d'une certaine manière, le monde et l'univers. Alors, Marcel Jousse, précisément, va pouvoir se saisir de ce qu'il a expérimenté en tant que petit gars dans ses veillées sartoises, qui passe par l'oralité, et il a été questionné dès son plus jeune âge par quel est le langage de Jésus ? Comment s'est exprimé Jésus ? Alors, il s'est bien rendu compte assez rapidement qu'il ne s'exprimait pas en latin, qui ne s'exprimait pas en français, qui ne s'exprimait pas en patois, parce qu'il parlait le patois à cette époque-là, hein, et qu'en creusant un peu, il s'est aperçu que les évangiles étaient en grec et que le langage du Christ courant, c'était l'araméen. Mais il s'est aussi très vite aperçu que le Christ n'avait rien écrit qu'il pouvait lire, mais que toute sa transmission passait précisément par l'oralité, par l'expérience de son propre corps, et à travers des exemples de paysans. Et donc, il a été ensuite, ce Marcel Jousse, il était brillant, donc il a été officier pendant la guerre de 14-18, et il a été assez rapidement blessé, et il était dans l'artillerie, et il a été muté aux États-Unis pour devenir instructeur d'artillerie. Ce qui lui a permis, en 1915, d'être en contact avec les populations amérindiennes. Les populations indiennes, voilà, qui n'étaient pas encore à cette époque-là tellement imbibées de culture américaine. Et il a pu observer que chez ces Indiens, eh bien, il y avait une transmission par l'oralité qui passait par le geste, qui passait par le corps, et qui ressemblait à ce qu'il avait vécu dans ses expériences avec ses paysans sartois. Et par conséquent, ça l'a interpellé aussi sur comment transmettre un savoir, comment transmettre le réel, comment transmettre la réalité du monde à travers, si vous voulez, cette transmission dans l'oralité. Et c'est pour ça qu'il s'est aperçu que, précisément, ce dont je vous parle, à travers cette expérience du corps, des trois axes et des six directions qui permettent de structurer, si vous voulez, notre corps et notre mémoire. Ainsi, le mouvement antéro-postérieur est un mouvement de balancement. Et si vous faisiez l'expérience de vous mettre debout, là, en fermant les yeux, vous percevriez que si vous n'êtes pas conditionné ou si vous n'êtes pas trop tendu, vous êtes dans un balancement incessant antéro-postérieur. Parce que c'est la structure même de notre corps qui est comme ça. Vous voyez ? Or, précisément, tous les peuples de l'oralité ont porté leur mémoire dans ce geste de balancement antéro-postérieur. Vous voyez les petits arabes qui vont mémoriser les sourates coraniques par un balancement incessant. De même, les petits juifs dans les yeshivas vont aussi mémoriser la parole de Dieu de cette manière-là. C'est donc une expérience corporelle. On porte cette parole de Dieu pour les traditions juives comme on porte le joug de la Torah. Et donc, vous voyez, premier mouvement antéro-postérieur et le deuxième mouvement plus sophistiqué, qui est un mouvement latéral, de latéralité. Et vous savez aussi que dans la construction psychomotrice de l'enfant, eh bien, la latéralité est importante et vient après, hein, de prendre conscience de la droite. De la droite et de la gauche, si vous voulez, hein, dans un mouvement perpétuel. Mais c'est plus sophistiqué déjà. Donc vous avez un mouvement antéro-postérieur que Marcel Jousse va définir comme étant le mouvement de l'âne. L'âne va porter sa charge, hein, de manière antéro-postérieure. Et puis, il y a donc l'autre mouvement qui est latéral, qui est le mouvement du bœuf. Pourquoi le bœuf ? Parce qu'il porte le joug. Et je ne sais pas si vous avez repéré, pour les plus anciens, comment fonctionnait une paire de bœufs. Hein, et bien vous avez l'impression que ça dodeline de droite et de gauche, et pourtant le sillon est droit. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ce joug, et que les paysans s'appliquaient à mettre avec beaucoup de précision, de chercher la paire de joug qui convenait et qui marchait du même pas, et que le lien soit extrêmement serré, pour que la paire de bœufs puisse fonctionner ensemble. Eh bien, vous voyez, nous avons ça, ces traces-là dans notre langage, puisque nous parlons de conjugalité. Et vous voyez aussi ce rapprochement entre le réel de la paire de bœufs qui doit marcher d'un même pas avec un lien très serré. Autrement, si la paire de bœufs ne fonctionne pas, si le lien est lâche ou si le joug n'est pas ajusté, finalement tout le monde se blesse. Vous voyez ces relations qu'il peut y avoir entre l'observation paysanne de l'anthropologie et nos réalités les plus concrètes dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Donc vous voyez cette observation paysanne, cette observation qui nous ramène à une expérience corporelle est fondamentale. Alors, mouvement de fardeau, mouvement de joue latéral. Soit dit en passant, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais vous voyez combien cet âne qui porte le fardeau et ce bœuf est aussi une image biblique. L'âne correspondant au païen. C'est le peuple païen qui est représenté par l'âne. Et le bœuf représente le joug de la Torah et par conséquent le peuple juif. Nous retrouvons ça chez les pères de l'Église et nous les retrouvons, eh bien précisément, dans nos crèches. Hein ? Donc vous voyez, cette histoire a une histoire en même temps première, c'est-à-dire de manière littérale, au premier degré, c'est-à-dire au niveau du ras des pâquerettes, de l'observation paysanne, mais toujours ça fait allusion à quelque chose d'extrêmement profond dans la Bible. Par exemple, je vous parle de l'âne, mais vous savez que dans le sacrifice d'Abraham, l'âne est resté au pied de la montagne. C'est Isaac qui porte le bois pour le sacrifice. Or, Jésus va monter sur le dos de l'âne et il y a une insistance considérable de cet âne dans les évangiles de la Passion. Hein ? Pourquoi y a-t-il une telle insistance que Jésus monte sur le dos d'un âne pour monter jusqu'à Jérusalem? Eh bien, vous avez là aussi une allusion que les pères de l'Église ont bien repérée de cette montée du peuple païen jusqu'au sacrifice suprême de Jérusalem, alors qu'il était resté au pied de la montagne avec Abraham. Voilà. Donc, mouvement antéro-postérieur, mouvement latéral et mouvement haut-bas. Eh bien, si vous condensez ces trois mouvements fondamentaux, eh bien, vous avez, et je vais me mettre debout, donc vous avez le mouvement antéro-postérieur, vous avez le mouvement latéral, et la combinaison des trois forme le bercement. Et nous avons besoin d'être bercés. Nous avons besoin d'être bercés. Nous avons besoin d'être bercés. Je suis kinésithérapeute, je sais combien nous avons besoin d'être bercés. Et notre monde est de plus en plus dur, de plus en plus tendu. Et nous nous tendons de plus en plus. Et nous avons besoin d'être bercés. Et nous avons besoin d'être bercés dans une tradition, dans une mémoire qui nous veut heureux. Et voilà pourquoi aujourd'hui on va chercher de multiples techniques alors que nous avons besoin de recevoir une parole qui vient nous bercer. On va retrouver ça dans le prophète Osée, hein. On va retrouver ça tout au long de la Bible, que cette importance d'être bercé dans cette parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus va lui-même parler du joug et du fardeau. Et nous sommes là au cœur de l'évangile de Matthieu. Et au cœur de l'évangile de Matthieu, nous avons ce bercement qui nous est proposé par Jésus lui-même. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Donc vous avez vu, vous avez deux propositions, le joug et le fardeau, et vous avez deux orientations fondamentales du cœur de Jésus, qui est sa douceur et son humilité. Alors nous allons voir qu'à travers ces trois axes et ces six directions, il existe un point central. C'est, on peut dire, le 7, qui est au cœur même de ce système antéro-postérieur, latéral et au bas. Or, toute l'anthropologie biblique est basée précisément sur cette conscience du 6 plus 1. La création du monde a été faite en 6 périodes. Je vais vous dire plutôt ça comme ça, parce que voilà, 6 périodes. Et elle est orientée dans le repos en Dieu, qui est le 7, vous voyez, qui est le lieu central, le lieu par lequel passent tous les mouvements de l'histoire, l'avant, l'arrière, le futur, le passé, l'obscurité et la lumière, le très haut et le très bas. Et il est un point central qui est le 7, le repos en Dieu, le jour du sabbat. Et ce jour du sabbat va être repris précisément par Jésus, qui est le cœur du cœur de l'histoire et qui est le cœur du temps et de l'espace. Deux attributs à ce cœur de Jésus, sa douceur et son humilité. Or, il se trouve que la douceur et l'humilité du cœur de Jésus sont précisément les deux premières béatitudes. Heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Vous voyez un petit peu le volume que peut prendre ces simples mots et ces simples phrases, qui sont anthropologiquement extrêmement structurées, non pas dans la tête, mais dans notre expérience corporelle, somatique. L'incarnation n'est pas pour du beurre, c'est véritablement au cœur du cœur de notre expérience corporelle que nous pouvons ressentir et sentir la justesse de ces paroles et leur vérité. Or, je vais juste prendre ça, mais vous voyez, l'humilité. Si vous allez chercher le thème, le mot en hébreu, c'est Ani. Et Ani représente quelque chose d'être, encore une fois, une expérience corporelle. Ani veut dire celui qui est penché, courbé, celui qui ploie précisément sous le poids de l'existence, de l'adversité, des tensions, de la maladie, de tout ce que vous voudrez. Celui-là est courbé, Ani, qui a donné les Anaïmes, les pauvres. Mais vous voyez aussi que nous rentrons dans cette maison, si nous le voulons bien, bête Ani. Cette maison est faite pour ceux qui s'inclinent et non pas pour ceux qui se la pètent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expérience physique, incarnée, qui nous permet de rentrer dans cette relation du cœur à cœur avec celui qui vient nous donner le repos. Vous voyez donc l'expérience physique, incarnée, de cette ouverture pour être heureux à ceux qui sont inclinés. Paradoxalement, c'est le royaume de Dieu qui leur est offert. Et les doux vont obtenir la terre promise. Et c'est au cœur aussi de l'enseignement de Jésus dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà, tout se tient, et c'est très important de faire quelques... Voilà, j'ai été un petit peu rapide sur cette anthropologie, et je vais revenir précisément aux bases que nous propose la genèse de cette anthropologie biblique qui passe toujours par une expérience corporelle. Alors, revenons à cette première expérience du premier jour. Or, la première expérience que nous faisons corporellement de vie indépendante, c'est précisément la réception du souffle. On attend avec impatience, quand le bébé naît, son premier cri, sa première insufflation, sa première expérience d'être insufflé et ensuite de pouvoir sortir cette insufflation par son premier cri. La respiration, respirer. Et c'est très important, nous attendons avec impatience cette respiration. Et cette respiration était aussi inscrite au cœur de la Genèse. Souffle, le souffle. Il a modelé l'homme à son image et à sa ressemblance et il lui a insufflé dans les narines une haleine de vie et il est devenu une nefesh vivante. Nefesh, le mot nefesh n'est pas le mot direct, emprunté qui va devenir le mot âme qui vient des Grecs, si vous voulez. Le mot nefesh, qui veut dire d'une certaine manière l'âme, pour les Hébreux, est quelque chose d'extrêmement incarné. La nefesh, c'est la gorge. Parce que la gorge, précisément, est le passage de l'air vital, mais également de la nourriture vitale, mais également de la parole vital. Donc vous voyez, c'est ce concept d'âme qui est assez, déjà élaboré sur le plan de l'intellectualité, est d'abord et avant tout dans la Bible une expérience physique. Et donc, ce souffle qui plane au-dessus des eaux, raesh en hébreu, c'est-à-dire que c'est exactement l'oiseau qui plane au-dessus des eaux. Alors, je vais vous relater une expérience qui a été pour moi, mais alors vraiment saisissante, une expérience professionnelle. Vous savez, donc, cette respiration, est-ce que vous êtes rendu compte qu'on ne prenait pas le temps de souffler, hein? Vous avez vu ça, hein? C'est une expérience corporelle. C'est de dire qu'on ne prend pas le temps de souffler, c'est une expérience physiologiquement réelle, hein? On ne prend pas le temps de souffler. Peut-être d'ailleurs qu'en m'écoutant, je ne vous laisse pas trop le temps de souffler non plus. Non, mais vous voyez, donc, c'est de ne pas prendre le temps de souffler. Et ce souffle, au cœur de notre cœur, de notre corps, le souffle, c'est le diaphragme. Et le diaphragme est au centre de notre corps. Le diaphragme, ça sert au niveau des vertèbres, des dernières vertèbres dorsales et des premières lombaires. Il a un rôle statique aussi important au niveau de la colonne vertébrale. Et nous ne prenons pas suffisamment le temps de souffler, de vider, pour ensuite se laisser inspirer. Nous verrons combien c'est important dans la liturgie. Donc, le diaphragme est constitué de deux hémicoupoles. C'est un muscle. Coupe donc le thorax en haut de l'abdomen du bas. Et ces deux hémicoupoles ont les formes d'ailes. Vous voyez, ce sont des ailes intérieures, hein, qui, quand elles s'abaissent, permettent à l'air de pénétrer dans les poumons, et quand elles se soulèvent, on expire, si vous voulez. On expire, tiens, on expire, ça veut dire quoi en français, expirer ? Et mourir. Donc vous voyez un peu combien c'est important. On ne veut pas souffler parce qu'on ne veut pas mourir d'une certaine manière. Et on ne veut pas non plus être inspiré. Tiens, c'est curieux. On peut dire j'expire en français, mais on ne peut pas dire je suis expiré. Par contre, vous pouvez dire j'inspire, et vous pouvez dire aussi je suis inspiré. Ah bah tiens, ça veut dire déjà autre chose. Qui vous inspire ? Qui vous inspire ? C'est une question très profonde, ça. Qui nous inspire ? Or, spirare, qui est la racine même du mot respirer, a la même racine que spiritus. Vous voyez qu'il y a une relation extrêmement étroite entre ce souffle et l'esprit. C'est comme si c'était l'interface entre notre corporalité et le monde de l'esprit. Et c'est très étonnant, parce que finalement, ce diaphragme, en langage médipascal, s'appelle aussi le centre phrénique. Or, phrène, en grec, veut dire état d'âme, état d'humeur, état d'esprit. Nous avons ça dans frénésie, je crois, ou dans schizophrénie, qui est une rupture précisément pathologique du phrène. Donc vous voyez que les anciens avaient déjà repéré que ce muscle qui était au cœur et au centre de notre corps était comme le baromètre ou le thermomètre de nos climats psychologiques, physiologiques et peut-être même spirituels. Alors, cette personne que je voyais pour un problème d'épaule, parce qu'elle avait une respiration thoracique haute. Je vais essayer de vous la faire, mais j'enlève mon petit bouton. Voilà, regardez. Une respiration thoracique haute. Ce sont des muscles qu'on appelle les scalènes. La même racine qu'escalier. Vous voyez, c'est toujours très intéressant de voir les racines physiologiques, hein, de voir, d'aller à la racine. Scalène. Et donc, on monte à l'échelle, vous savez. Et on prend plus le temps de souffler. Alors on va rechercher encore plus haut. Vous avez vu, ça s'attrape ce truc-là. Hein ? Si je me mets à respirer comme ça, vous allez peut-être éventuellement en faire autant. Hein ? Donc vous voyez, c'est extrêmement contagieux. Et dans notre société extrêmement tendue, où on ne prend pas le temps de souffler, il y a une contagion réciproque sur le plan de la mimismologie, comme dirait Jousse. C'est-à-dire, on mime ce qu'on aime, ou on mime notre entourage, sans même nous en rendre compte. Et donc, cette personne qui avait un problème d'épaule, parce qu'elle avait une respiration qui était très très haute, avait bloqué une cervicale C3, enfin peu importe, la troisième, et avait une correspondance avec l'épaule. Pour toi, le côté gauche plus le côté droit, et c'est très intéressant parce que cette épaule diaphragmatique va en résonance avec tout ce qui se passe au niveau de notre boyauterie. Hein, et vous avez l'estomac à gauche, la zone hépato-biliaire à droite, et en fonction de la tension que vous pouvez avoir, droite ou gauche, eh bien ça va bloquer jusqu'au niveau du cou, voire au niveau de l'épaule. Enfin, bref, je ne vais pas me rentrer dans les méandres professionnels, je voulais simplement vous dire que cette personne-là ne pouvait plus respirer avec son diaphragme. Elle ne pouvait plus respirer avec son ventre. C'est-à-dire que sa respiration était complètement bloquée du haut, et du haut du côté gauche, parce que c'était bloqué au niveau de l'estomac. Et je lui dis cette histoire d'oiseau, vous voyez ? Et je lui dis, mais regardez le bassin. C'est un nid, le bassin. Le bassin est un nid. C'est un oiseau sur un nid. Laissez descendre l'oiseau de votre diaphragme dans votre nid. Et contre toute attente, cette femme s'est mise à pleurer. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir autant de larmes dans les yeux. Et j'étais là, je ne savais pas ce qui se passait. Vraiment, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais respectueux. Et j'étais aussi, et nous y reviendrons par rapport aux nouvelles thérapies, Je ne veux pas, peut-être parfois inconsciemment nous le sommes, parce que nous avons nos critères et nos... Je ne voulais pas être intrusif en posant la question « Pourquoi vous pleurez ?» Parce que ça fait partie du cœur de l'intimité de chacun, et nous avons à respecter ce lieu-là. Pas de questionnement intrusif. Pas de questionnement non plus ou de perspective inductive. Pas d'intrusion ni d'induction. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une interprétation et la proposer à la personne qui vient. Je crois vraiment que c'est un des plus grands dangers des nouvelles thérapies que d'être dans cette intrusion et dans cette induction. Est-ce que je suis clair ? Donc voilà, vous voyez, je disais à cette dame, simplement, le réel, enfin vous voyez, le réel, de prendre conscience de la réalité de sa respiration. Et donc elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'étais là, vraiment, j'étais là en prière, mais dans une prière silencieuse, vous savez, pas une prière non plus qui soit, voilà, simplement d'attendre ce qui peut advenir. Hein, et j'étais, voilà. Et au bout de ses larmes, cette personne m'a dit, à l'âge de 17 ans, j'ai avorté. À l'âge de 17 ans, j'ai avorté. Et donc, est advenu un silence. Et au bout de ce silence, a jailli en moi cette parole de la Genèse, et souffle de Dieu planait sur les eaux. Et là, j'ai pris conscience de manière incroyable combien cette parole était incarnée au plus profond de la chair de notre chair, de manière inouïe, inimaginable, et pourtant si concrète, si vraie, si juste. Et à ce moment-là, je me suis permis de lui dire ce que j'avais entrevu. Et c'est une personne enseignante, laïque, tout ce qu'il y a de plus, baptisée comme ça vaguement, mais après plus rien, si vous voulez. Et je lui ai sorti cette parole de la Genèse et souffle de Dieu planer sur les eaux. Il s'en est suivi un silence. Mais vous savez, il y a des silences qui sont gênants, puis il y a des silences qui sont pleins d'une douce présence, mystérieuse, hein, sur laquelle nous n'avons pas la main. Et voilà. Et donc cette personne est partie, puis après ça a été progressivement mieux, et j'avais plus de nouvelles. Le janvier de l'année d'après, je reçois une petite carte de cette personne me souhaitant une bonne année. Figurez-vous que sa carte de bonne année, c'était une cigogne avec un bébé qui porte comme ça. Pas plus, hein. J'ai rien su de plus. Et je n'ai rien voulu savoir de plus. Vous voyez, on n'est pas là pour... on est là à un moment, on accompagne, on ne sait pas. C'est un mystère. C'est un mystère. L'autre est un mystère. Le poids de son existence est un mystère. Nous n'avons pas à toucher ce qui se passe à cet endroit-là. Et il y a je fais allusion là à quelque chose qui m'est cher aussi, qui est une annotation, l'annotation 19 dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, et ça vaut pour nous tous, ça vaut pour les pédagogues, ça vaut pour les parents, ça vaut pour tous ceux qui sont en situation un petit peu de responsabilité à un moment ou à un autre. Il ne faut pas que l'accompagnateur vienne se nicher dans la blessure de la personne. Nous ne sommes pas les maîtres du mystère, de la souffrance et de ce qui se passe dans l'intimité, la chair du cœur des personnes. Or, cette chair, ce corps, est mémoire, plus que notre tête. Notre corps est mémoire, et nous l'avons vu, mémoire de l'humanité, mémoire du cosmos, mémoire de toutes les espèces. Nous avons ça en notre corps. Le corps, notre corps est mémoire. Alors, vous voyez ce chemin à travers l'expérience très concrète qui vous savez, hein, on n'est pas maître de rien. Hein. On constate, comme disait Claudel, hein, je ne comprends pas, mais je peux constater. Et je peux aussi relire et relier. Relire mon expérience la plus immédiate, la plus concrète, à travers les sciences de l'anatomie, et puis la relire avec cette parole de Dieu qui vient nous donner une perspective, une ouverture, et qui nous entend et qui nous entraîne vers la joie et le bonheur. Mais pas un bonheur immédiat, pas un bonheur que l'on prend. Or, précisément, par rapport à la respiration, l'homme est une terre insufflée, Adama insufflée. Et déjà, dans ce Bereshit, dans un commencement, déjà, tout le New Age se casse la gueule. Pourquoi ? Parce que précisément, il n'y a pas de commencement dans les perspectives orientales et dans les perspectives du New Age. Quand nous disons « dans un commencement », ça veut dire que le monde a été créé ex nihilo par Dieu et par sa parole. Nous avons un commencement, nous avons un point de départ et nous avons une finalité. L'histoire a un but et a un sens. Quand nous sommes dans les techniques qui nous viennent du New Age, inspirées de pseudo-trucs qui nous viennent de l'Orient, le temps dans l'Orient est cyclique. Et dans le New Age, c'est cyclique aussi. Nous n'avons pas, vous voyez, nous n'avons pas d'orientation au temps. Nous n'avons pas de finalité. Tout et dans tout et inversement. Et il n'y a certainement pas de dissociation entre la création et le créateur. C'est ce que l'on appelle le monisme. Le monisme, c'est cette conception où tout est dans tout. Vous êtes Dieu, vous-même. Vous voyez, vous n'êtes pas référent à un Dieu qui vous aurait créé, et encore moins un Dieu qui vous aime, si vous voulez. Donc vous voyez, dans cette perspective énergétique du monde, il n'y a pas... Dieu n'est pas une personne, il est une énergie. Voilà. Alors, ça va se retrouver extrêmement concrètement dans nos techniques, parce que aucune technique telle qu'elle soit, n'est pas... Aucune technique est sans référence à une anthropologie qui la sous-tend. Ainsi, par rapport au souffle, précisément, l'Orient va essayer de capter les énergies du souffle. On va essayer de prendre dans le yoga, le pranayama, le prana. Et on va essayer techniquement d'être le plus performant pour capter les énergies du prana. Vous voyez ? Donc d'être dans une volonté d'être véritablement dans cette fusion avec les énergies du monde, ou l'énergie du monde, ou ce que vous voulez, à travers des techniques d'ascèse qui nous permettraient d'acquérir précisément cette fusion ou cette relation fusionnelle avec les énergies du monde. Et là, vous voyez, tout le pranayama, toutes les techniques qui nous viennent de l'Orient sont des techniques qui nous permettraient d'accéder précisément à cette divinisation de nous-mêmes en étant en unité parfaite avec l'énergie du monde. Alors que l'Occident, mais qui perd maintenant ses racines, se reçoit du souffle de Dieu, se reçoit dans cette acceptation d'être insufflé. Si nous sommes insufflés, nous n'avons pas la maîtrise de ce souffle. Nous recevons ce souffle comme un cadeau permanent. Et donc cette rouar que l'on va retrouver dès le premier jour de la Genèse va traverser l'ensemble de la Bible et aussi est le souffle qui va inspirer les prophètes et qui va inspirer aussi les apôtres et qui va nous inspirer nous-mêmes, ce souffle. Mais c'est un souffle sur lequel nous n'avons pas la main. Nous ne pouvons que être disposés à l'accueillir. C'est très important, cette question-là. Très important. Vous voyez, parce que dès qu'on va essayer de chercher par des techniques et des moyens d'être heureux, en tout cas d'être en état plénier, nous sommes là dans une volonté captatrice de techniques et non pas dans un accueil du souffle. Et j'aime bien prendre cet exemple extrêmement important du plus beau chant de Marie, qui est le Magnificat. Hein, vous savez, mon âme exalte le Seigneur. Et la deuxième phrase, c'est « Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». Mais esprit, esprit, c'est spiritus en latin. C'est pneuma en grec. Et c'est ruach en hébreu. Et on pourrait traduire la deuxième phrase du Magnificat par « Et mon souffle se rythme en Dieu mon Sauveur ». C'est-à-dire qu'en Marie, il y a adéquation profonde entre le souffle physique et le souffle de Dieu. Il y a avec Marie cette immédiateté de la justesse du souffle de la vie physique et ce souffle impulsé par l'Esprit-Saint. Et donc Marie est véritablement notre guide, notre maître, pour être dans cette perspective de l'écoute de la parole de Dieu, et non pas la volonté de nous saisir de techniques ou de moyens qui permettraient effectivement peut-être de nous sentir mieux, mais qui d'une certaine manière nous étanchéifient au réel, parce que nous ne sommes plus dans une obéissance, nous ne sommes plus dans une disponibilité à ouvrir l'oreille à l'altérité. Et nous reverrons ça avec l'histoire du serpent plus tard. Vous voyez, cette chose-là sont extrêmement importantes. On va chercher aujourd'hui des moyens pour être mieux, mais qui ne sont pas des moyens, comment dire, qui sont une disponibilité de tout notre être à l'inattendu, à l'étonnement, et finalement à recevoir un cadeau plutôt que de le prendre. Tiens, ça nous dit quelque chose de la Genèse aussi. Hein. Prendre le fruit ou recevoir. Et là, cette alternance, vous voyez, ce combat spirituel que nous vivons tous, hein, tous, on a toujours envie de prendre hein, au lieu de recevoir. C'est véritablement toute une tension existentielle, anthropologique, et qui nous permet, vous voyez, à travers des choses extrêmement concrètes, d'expériences corporelles, de vivre notre vie spirituelle. J'ai encore quelques minutes pour terminer juste ce passage-là. Hein. Didier, tu me dis. Hein. Ça va ? Je voudrais faire un raccourci maintenant par rapport à la vie liturgique, la vie spirituelle. Les exercices de pranayama, les exercices de yoga, sont là pour précisément accéder à des niveaux de conscience dits supérieurs. Donc on va faire des exercices pour contraindre le corps. Je ne rentrerai pas dans des histoires techniques de Kundalini, etc., hein, de la montée de cette énergie que nous aurions au cœur de notre bassin, si vous voulez, avec des techniques qu'il faudrait arriver à faire monter cette Kundalini pour arriver à des niveaux de conscience supérieurs. Vous voyez, donc c'est des exercices de pranayama, sont des exercices où on va rentrer, yoga veut dire unité, mais avec cet univers énergétique, cosmique, si vous voulez. Donc, vous voyez, tous ces exercices techniques font immanquablement le résultat. C'est-à-dire, si vous pratiquez avec assiduité et assez certaines techniques, vous allez être automatiquement mis dans des climats particuliers. Ainsi, vous vous souvenez du film Le Grand Bleu, hein ? Vous avez vu Le Grand Bleu, Jacques Mayol, là, qui fait des exercices de pranayama, est capable de performances inouïes, puisqu'il est capable d'apnée pendant 8 minutes, pratiquement, de baisser le rythme cardiaque. Il y a certains yogis qui sont capables carrément d'arrêter hein, leur rythme cardiaque, en tout cas, de performances absolument incroyables. Bien, Jacques Mayol, précisément, est dans ces techniques-là, et ceux qui sont dans les plongées extrêmes pratiquent ces exercices qui permettent de réveiller des réflexes que l'on a à l'état archaïque. C'est-à-dire que le bébé, à la naissance, quand il y a une souffrance respiratoire, eh bien, automatiquement, son cœur et son oxygénation va être pour ses organes vitaux, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. Donc, ce sont des réflexes que peuvent avoir les amphibiens aussi, tous ces mammifères marins, qui sont capables d'apnée considérable d'une demi-heure, parfois trois quarts d'heure, vous voyez, alors qu'ils ont une respiration comme nous. Mais il y a des réflexes qui sont ouverts et qui entraînent la libération d'endorphines. L'endorphine, ce sont des substances morphiniques que l'on a à l'état naturel et que, par exemple, les triathloniens, les marathoniens, les gens de sport extrême sont à la recherche d'une forme d'auto-shootage. Hein. Il y en a qui sont totalement accro de ces trucs-là parce que la libération de l'endorphine provoque des états euphorisants. Et bien, dans certaines techniques de contrainte du corps d'asana du yoga, et notamment du yoga respiratoire, et bien, il y a provocation de ces libérations d'endorphine qui créent précisément des états, vous voyez, de béatitude. Hein. Donc, on peut, vous voyez, on peut croire qu'on est arrivé au nirvana par des contraintes et des exercices corporels qui, en fait, ce sont simplement des états psychophysiologiques. Voilà. Donc, et vous voyez comment se termine le film. Le film se termine que Jacques Mayol, qui a eu cette journaliste qui l'a mis enceinte, eh bien, préfère rejoindre les profondeurs abyssales hein, plutôt que d'être en relation avec la réalité de sa compagne, de son altérité, hein, il préfère rentrer précisément dans ce tohu-va-bohu primordial, parce qu'il y a une sorte de fascination à revenir dans l'état originel ou original, vous voyez, cette fascination à revenir au sein du sein où on était si bien, vous savez, on était blanchi, logé, nourri, hein, quand on était dans le ventre maternel. Et d'une certaine manière, vous voyez cette plongée à travers ces exercices qui contraignent le corps, précisément nous met dans ce confort-là, mais précisément aussi nous empêche d'être ouvert à l'altérité. C'est pour ça qu'en Inde, vous savez, les mouroirs de Calcutta, c'est Mère Teresa, hein, c'est pas des maîtres fakir yogi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la relation à l'autre, elle est étanchéifiée par ce type de technique qui nous ramène à ce qu'on appelle l'enstase. L'enstase. Vous voyez? L'extase, mais en soi. L'extase qui est extérieure, justement. Extase. En stase, c'est précisément être dans son trip. L'extase, c'est d'être dans une telle relation à l'autre et au Christ que nous sortons d'une certaine manière de nous-mêmes. Mais nous sortons pour mieux être incarnés. Attention. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ces techniques-là nous empêchent d'une certaine manière progressivement, sans insidieusement, parce que nous sommes bien là-dedans, ça fait d'une certaine manière du bien, hein, vraiment ça fait du bien, mais ça nous fait du bien, vous voyez, dans notre bulle. On verra ça dans beaucoup d'autres techniques, effectivement, qui sont inspirées de ces techniques-là, notamment la sophrologie. Voilà. Et je reviens donc à mon histoire liturgique, et je terminerai peut-être cette première phase par cela. Nous avons tout dans notre liturgie, dans notre liturgie. Et précisément, nous avons... Les moines et les moniales et ceux qui sont dans cette tradition-là répètent un geste plus de 100 fois par jour. Plus de 100 fois par jour, il est un geste répété dans la tradition chrétienne et orthodoxe d'une certaine manière. Ce geste va accompagner chacune de la fin des psaumes. Hein ? Ce geste est l'orientation de notre corps et de notre chair. Ce n'est pas trouver un exercice pour prendre son pied en soi-même, c'est véritablement redonner tout son souffle en glorifiant Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ce geste s'accompagne de l'inclination profonde. Et l'inclination profonde est extrêmement importante. Vous voyez, de redonner tout son souffle et tout son corps dans cette orientation avec une parole. Parce que l'orientation du corps est donnée. Et nous ne faisons pas ce geste pour avoir des satisfactions personnelles, mais pour précisément, comme quelqu'un qui redonne un cadeau inestimable, on va redonner tout son souffle pour glorifier Dieu. Or ce geste, qui est le geste de l'inclination profonde, vous le connaissez, hein, c'est de mettre les mains sur le scapulaire et de se baisser. Vous voyez ? Mais il ne faut pas se baisser en étant la tête à regarder les copains, hein, ni avoir la tête repliée sur soi-même. Il y a dans le coutumier des bénédictins, vous voyez, dans la tradition orale, cette volonté de vouloir mettre la colonne vertébrale dans l'alignement. Vous voyez, occiput scapulum sacrum. C'est très important sur le plan physiologique, parce que nous avons vu en ouverture de cette première phase, que la musculature postérieure avait toujours tendance à l'enraidissement. Hein, et que si nous faisons ce geste-là, eh bien, nous nous assouplissons toute la chaîne musculaire postérieure de la tête aux pieds. Vous voyez, donc physiologiquement, c'est tout à fait juste. Hein. Et donc, l'homme a cette perspective d'être dans la verticalité. Et c'est cette verticalité qui donne l'horizontalité du regard. Et cette horizontalité du regard permet autant de regarder le ciel que la terre. Vous voyez ? Anthropologiquement. Si vous regardez trop le ciel, vous ne vous occupez plus de la terre. Et vous pouvez marcher sur n'importe quoi. Hein ? Oui. Si vous regardez trop la terre et que vous ne regardez pas le ciel, il y a quelque chose aussi qui va être boiteux. Donc vous voyez, cette horizontalité du regard permet d'embrasser le réel dans toute sa dimension verticale, haut, bas, droite, gauche, etc. Vous voyez ? Or donc, ce geste d'inclination profonde va s'accompagner d'un souffle extrêmement important, surtout en grégorien, quand il y a le Gloria Patri et Filio, vous allez jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout du souffle. Et vous faites cet étirement de la chaîne musculaire postérieure qui permet ensuite, après avoir rendu gloire à Dieu, de se laisser véritablement inspirer par lui.